Raphaël Girardin.
Bonjour, sa forme ovale en fait une de ses spécificités. Il y a 100 ans, le grand temple de la Chaux-de-Fonds était inauguré après être parti en fumée. Les commémorations se tiennent ces jours dans la métropole horlogère. Le Téléthon suisse touche à sa fin. Quelques événements se tiennent encore aujourd'hui. À l'heure du premier bilan, les organisateurs saluent la mobilisation des bénévoles. Dimanche sportif sur RTN, Union Neuchâtel affronte Boncourt en Swiss Basketball League dès 16h, alors que le HC La Chaux-de-Fonds s'en va défier Zoug Academy en Swiss League de hockey sur glace. Deux rencontres à suivre en direct sur notre antenne. De la grisaille et des giboulées au menu météo du jour. Une courte accalmie est néanmoins prévue dans l'après-midi. Les températures indiqueront un maximum de 4 degrés en plaine et moins 1 à 1000 mètres. C'est l'un des emblèmes de la ville de La Chaux-de-Fonds. Le grand temple fête les 100 ans de sa reconstruction. Pour marquer le coup, une expo photo d'archives a été installée dans la cour de l'édifice et un culte commémoratif s'est tenu ce matin. Il faut rappeler qu'en 1919, le grand temple était détruit pour la deuxième fois par un incendie avant de renaître de ses cendres en 1921. Et si le bâtiment est devenu emblématique, c'est en partie grâce à son architecture très spéciale. L'initiateur de ces commémorations, Jean-Hubert Lebet.
D'abord, il a été construit après le grand incendie de la ville en 1794 et il a été construit sur une forme ovale, quelque chose de très très particulier. Je crois qu'il y a trois ou quatre temples en Suisse qui sont construits comme ça. Ce temple-là a brûlé, a été complètement détruit et le conseil de paroisse s'est réuni le soir de l'incendie, le 19 juillet, le soir même, ils ont décidé de tout reconstruire. Et ils ont demandé à la commune de pouvoir récupérer l'entière propriété du temple, qui était propriété de la commune. Il y avait des événements politiques qui avaient eu lieu là-dedans. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y a eu la grande grève, il y a eu la grève générale, il y a eu des événements lourds. Paul Grabert était à la prison de Chaux-de-Fonds. La prison a été prise d'assaut par la population pour le libérer. La ville avait été occupée à un autre moment par 5000 soldats. Donc c'était une période assez tendue et la paroisse tenait à récupérer le bâtiment, qui servait à des événements civils. Et le conseil communal et le conseil général ont accédé à cette demande. Et en cédant le temple, ils ont aussi décidé de la construction de la maison du peuple. Donc c'est à ce moment-là que les deux destins se sont séparés.
Qu'est-ce qu'il a eu comme péripétie au niveau architectural, ce grand temple ?
Alors, c'est une forme extrêmement difficile. Donc un ovale, ça c'est compliqué comme forme. Et on a eu la chance d'avoir à l'époque un comité de la bâtisse qui a pris les choses en main, qui a été nommé pour faire ça. Et ils ont réussi l'exploit en 2 ans et 5 mois, entre le moment de l'incendie et l'inauguration, ils ont tout fait. Donc ils ont décidé la reconstruction, ils ont fait un concours pour le bâtiment, ils ont donné le mandat à une équipe d'architectes, Chapala et Emery. Ces derniers se sont appuyés sur l'expertise de Léon Perrin, qui était sculpteur ici, qui a été le maître artistique de la reconstruction du temple, qui a évité 2-3 trucs un peu rococo qu'on aurait pu avoir dans le temple. Donc c'est très épuré, c'est très sobre, c'est peut-être un peu froid, mais c'est grâce à lui qu'il y a une certaine esthétique. Puis ensuite, ils ont adapté les plans au fur et à mesure du chantier. Il n'y a pas un plan au début, on commence le chantier, on sait où on va. Ça s'est réglé au fur et à mesure. On n'a malheureusement pas les documents qui précisent dans quelles conditions les décisions ont été prises. On a encore quelques plans, quelques factures qui sont à la bibliothèque de la ville, qui nous permettent de savoir un peu comment les choses ont évolué. Mais on sait par exemple que la forme de la chaire a été décidée très très tard dans 1921, je crois, à 6 mois de l'inauguration du temple. Ils ne savaient pas encore comment la construire.
Une projection d'un diaporama sur l'histoire du grand temple ainsi que des conférences sur sa reconstruction et ses secrets se tiendront mardi et jeudi. Du fait maison sur le pas de porte, c'est le concept de l'entreprise régionale Weekly Food, fondée au printemps dernier par Joris Humer. Cette société propose chaque semaine des repas concoctés de manière artisanale à Saint-Imier, puis livrés dans toute la Suisse. L'offre se destinait avant tout aux particuliers, mais approvisionne aussi depuis peu quelques entreprises de la région. Alors que la première année d'activité s'achève pour Weekly Food, son fondateur, âgé de 29 ans, dresse un bilan positif avec des commandes qui fluctuent entre 100 et 150 repas par semaine. Un joli départ pour ce franc montagnard établi à Bienne qui a su tirer du positif de la crise sanitaire. Joris Humer.
C'était issu un peu de la pandémie, c'est vrai. J'ai simplement vu un reportage sur ce concept qui existait déjà à l'étranger. J'ai cherché un peu comment on pouvait arriver à mettre cela en place. Et de fil en aiguille, j'ai créé l'entreprise.
Au niveau régional large, arc jurassien, Suisse romande, c'était vraiment un concept novateur.
Alors oui, nous sommes que 3 acteurs en Suisse à proposer ça. Et puis, dans la région, je suis le seul. Et donc, nous livrons dans toute la Suisse.
Finalement, à qui se destine votre offre aux gens qui veulent pas sortir ou qui n'aiment pas cuisiner ou qui n'ont pas le temps?
Alors, j'irai un peu les trois à la fois. C'est à la fois les gens qui souhaitent varier leur alimentation, vu qu'on propose une dizaine de recettes, et ceux qui n'ont aussi pas le temps et qui, peut-être par le passé, se tourner vers la facilité, des plats un peu tout frais, tout faits du marché classique. Et puis nous, nous proposons des plats tout faits mais qualitatifs. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps, des gens qui souhaitent déguster des nouvelles choses chaque semaine. C'est un peu les deux.
Joris Humer, fondateur de Weekly Food, répondait à Natacha Mengoli. La météo et la pandémie n'auront pas eu la peau du Téléthon. Depuis vendredi, des centaines de bénévoles à travers la Suisse se sont mobilisés pour récolter des dons en faveur de la recherche contre les maladies génétiques orphelines. Premier bilan avec la responsable du Centre de coordination nationale du Téléthon, Léna Fazola.
On a vraiment eu un temps pas du tout favorable, donc du coup, mais tous nos bénévoles étaient présents sur le terrain, peut-être de manière un peu plus courte, et ça, on ne leur en veut pas du tout, on les comprend. Mais du coup, la mobilisation, elle ne faiblit pas. Beau temps, mauvais temps, situation de pandémie ou pas, ils sont là. Donc vraiment, on est très fiers d'eux. Et puis, ils délivrent chaque année ce message très fort aux familles. On est là, on est là, on est plus fort ensemble. Et puis du coup, on se bat avec vous.
Au bilan comptable, est-ce qu'on a déjà une idée de combien de dons ont été récoltés lors de ces deux jours?
Malheureusement pas, parce que le Téléthon, c'est une toute petite équipe. On est quatre personnes à temps partiel sur toute la Suisse. Et puis du coup, là, avec tout ce qui s'est passé et tout, on a malheureusement pas la possibilité de faire un bilan. Il y a beaucoup de manifestations qui se terminent aujourd'hui. Donc on arrivera à faire un point de situation plutôt lundi, ce premier bilan qu'on espère évidemment beaucoup plus généreux que l'année dernière dans une situation qui était particulière.
La règle dite des 2G, soit l'interdiction faite aux personnes seulement testées d'accéder à certains lieux, pourrait se généraliser pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Des experts et des élus veulent changer cette possibilité offerte par le Conseil fédéral en obligation. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, n'exclut pas catégoriquement cette introduction généralisée si les mesures prises vendredi ne produisent pas l'effet escompté. Pour le conseiller fédéral, il n'est cependant pas question de rendre la vaccination obligatoire à l'heure actuelle. Le pape François a appelé aujourd'hui à mettre fin à un naufrage de civilisation. Ceci lors d'un vibrant discours dans un camp de migrants sur l'emblématique île grecque de Lesbos. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale, comme un miroir de la mort, a-t-il lancé.
RTN, 12h23.
Sport. Et on accueille Yann Hesler pour parler. On parle vroom vroom. F1.
J'allais dire exactement la même chose, Raphaël.
Bonjour.
Vroom vroom, bonjour. On parle F1 avec Lewis Hamilton qui partira en première ligne du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Le Britannique de chez Mercedes a signé la 103e pole position de sa carrière devant son coéquipier Valtteri Bottas. Le Néerlandais Max Verstappen partira lui en 3e position. Alors qu'il allait remporter la pole, le Néerlandais a commis une très grosse erreur qui lui coûte la première place. Un coup de théâtre qui pourrait peser très lourd dans la course au titre mondial, vu que Verstappen compte seulement 8 points d'avance sur Hamilton à 2 courses du terme de la saison. Le départ du Grand Prix sera donc donné ce soir à 18h30. La bonne forme d'Union Neuchâtel va-t-elle se poursuivre? Les basketteurs du littoral affrontent le Bessier Boncourt cet après-midi dès 16h en Swiss Basketball League. Une rencontre à suivre sur RTN dès 15h45. Après un début de saison calamiteux, les unionistes ont enchaîné 3 victoires d'affilée. Cet après-midi, la troupe de Mitar Trivunovic, qui est 6e du classement, a la possibilité de revenir sur les meilleurs. Du côté de Boncourt, le retour en forme de Neuchâtel ne fait pas peur au meneur américain Derek Johnson.
Non,
on est prêt à affronter et battre n'importe quelle équipe, mais j'ai aussi vu qu'ils étaient dans une très bonne passe. C'est une bonne équipe avec de très bons gardes et des joueurs solides. Ils savent très bien jouer en équipe, shooter ou prendre l'intérieur. Ils sont très bons, mais je pense qu'en jouant notre jeu, on peut les battre. En réussissant les transitions, en mettant leurs gardes hors de position, on peut se donner la chance de gagner cette rencontre.
Boncourt Union Neuchâtel, c'est à 16h sur RTN et on prendra l'antenne à 15h45 avec Marcel Neunschwander. En volley-ball, on jouait hier chez les messieurs en Ligue Nationale B. Colombier-Volley s'est incliné 3-1 face à Amrisville 2. Au classement, Colombier recule à la 5e place. Et on joue cet après-midi en Ligue Nationale A féminine, le derby neuchâtelois. Valtra accueille le NUC. Le match commence à 17h. Vous pourrez entendre des réactions de cette rencontre demain dans nos éditions matinales. La fête du judo par équipe à la Riveraine. La Swiss Cup a fait vibrer Neuchâtel hier et encore aujourd'hui. Les meilleures équipes du pays étaient engagées dans cette compétition qui remplace les championnats de Suisse Interclub. Côté résultat, cette Swiss Cup n'a pas totalement souri. Au JC Cortaillot, les dames se sont emparées du bronze alors que les messieurs ont terminé à la 5e place. Des résultats honorables mais en deçà des ambitions affichées par le club. Le titre, lui, a été remporté par Stade Lausanne dans le tableau féminin et Brugge chez les hommes. Après les compétitions élites hier, les compétitions jeunesse se tiennent aujourd'hui. On passe au sport d'hiver. En ski alpin, les Suisses sur le podium. Beat Feutz a terminé 3e hier de la descente de Beaver Creek. Le skieur bernois n'a toutefois pas pu inquiéter le vainqueur du jour, le Norvégien Alexander Aumot Kilde. L'Autrichien Matthias Mayer se classe 2e. Il revient un petit peu au général dont Marco Odermatt tient la tête, lui qui était 15e hier soir. Une deuxième descente est prévue aujourd'hui dans le Colorado. Ça sera à 20h heure suisse. Chez les dames, toujours en descente, 3e place également pour Corinne Souter à Lake Louise. La Suissesse se classe derrière l'Italienne Sofia Goggia et l'Américaine Breezy Johnson. Les autres Suissesses sont loin derrière mais auront l'occasion de briller aujourd'hui avec le Super G. Un Super G dont le départ sera donné à 18h30. En hockey sur glace, le HC La Chaux-de-Fonds va-t-il retrouver le fil de son jeu en Swiss League 2 hockey sur glace donc. Après une défaite complètement évitable face à Turgovie vendredi 3-2 au tir au but, après avoir mené 2-0, les Abeilles s'en vont défier Zug Academy, ça sera à 18h. Un match à suivre en direct sur RTN avec le commentaire de Marc Aubert. Pour le défenseur Arnaud Jacquet et l'attaquant Loïc Inalbon, il faut que cette mauvaise passe se termine rapidement car les points coûtent très cher en ce moment.
On a maintenant 3 gros matchs avant la pause, voilà, on doit absolument faire des points, aussi pour notre confiance, parce que ouais, c'est une chance de pouvoir enchaîner les matchs, justement, de pouvoir se relancer, mais c'est aussi quand t'es dans une série comme on est actuellement, ça peut être aussi assez piège, donc on doit justement ressortir de ce trou afin de faire 3 gros matchs avant la pause.
Et puis Loïc, si on veut casser cette série un petit peu négative du HC La Chaux-de-Fonds, s'il y a un point auquel faire attention pour cette rencontre face à Zug Academy, c'est quoi le power play, la discipline?
Moi je pense déjà premièrement il ne faut pas le prendre à la légère le match parce qu'on voit que ces derniers temps ils jouent vraiment bien, ils gagnent des matchs contre des grosses équipes. Je pense que ouais, ça premièrement, le power play aussi, ça fait un moment qu'on ne marque plus beaucoup de goals en power play. Et puis c'est ça, aller pas négativement, toujours positif et puis toujours avoir le sourire entre guillemets et puis pas s'engouffrer quoi.
Des propos recueillis par Guillaume Joly, Zug Academy HCC, c'est à 18h et dès 17h45 en direct sur RTN. On jouait hier en première ligue, le HC Université Neuchâtel continue sur sa très bonne lancée. Les Aigles ont dominé le HC Sion 2-1 au patinoire du littoral. Grâce à ce succès, le 3e d'affilée, le HC Uni consolide sa 2e place au classement à 4 points du HC Franche-Montagne. On jouait aussi en 2e ligue, le Locle s'est incliné 6-5 face à Châteaudet, alors que Star Chaux-de-Fonds s'est imposé 7-4 face à Rarogne. Au classement, Star Chaux-de-Fonds est en tête du groupe 1 alors que le HC Le Locle est 4e. Enfin, ce matin, la Neuchâtel Hockey Academy s'est qualifiée pour les demi-finales de la National Cup Women, vu qu'elles sont allées battre les Fribourg Ladies 3-1 en quart de finale. Pour l'instant, le prochain adversaire des Neuchâteloises n'est pas encore connu. On rappelle encore que cet après-midi et ce soir, ça sera sportif sur RTN avec Union qui se déplace à Boncourt, début du match à 16h en Swiss Basketball League. Et ensuite, le HC La Chaux-de-Fonds qui va défier Zug Academy, ça sera à 18h toujours sur RTN.